que les années étudiantes sont vraiment les meilleures?
J'ai beaucoup d'importance à mon physique. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de superficiel?
La première fois, c'est vraiment si important.
Comment tu gères, toi, la pression sociale?
C'est vraiment si grave.
Je suis une fille et j'ai pas envie d'avoir d'enfants.
J'ai toujours pas mon bac.
Est-ce que c'est normal de toujours pas savoir ce que le. Est-ce que jamais été en couple? Est-ce que c'est grave?
Je veux pas avoir d'enfants.
Est-ce que c'est obligatoire d'avoir
la pression?
C'est si grave que ça parfois. C'est vraiment si important que c'est normal.
Chut.
Eh ben viens, on s'assoit et on papote.
Bonsoir à tous, il est 18h, on est vendredi, ce qui veut dire que vous écoutez On Papote. Comme à mon habitude, je suis accompagnée de Sarah pour cette petite heure. Bonsoir Sarah.
Bonsoir Anaëlle et bonsoir à vous qui nous écoutez.
Alors quel est le sujet de ce soir?
Le sujet de ce soir n'est pas des plus beaux, mais il est essentiel d'en discuter au vu des dernières années que nous avons vécues. Ce soir, nous parlons de santé mentale et principalement de dépression. Aélia et Jasmine sont présentes aujourd'hui au studio pour se livrer avec nous de ce sujet à couteau tranchant.
Avant de se lancer dans cette émission, nous souhaitons prévenir qu'il s'agit d'un épisode très sensible qui est destiné à un public averti. Si vous ne vous sentez pas capable d'écouter ce qui va être dit, n'hésitez pas à l'écouter avec un proche, un parent ou un ami. De même, des numéros d'urgence existent, tels que le 3114, qui est un numéro gratuit et anonyme, ainsi que le site internet SOS Amitié, disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
Comme nous l'avons dit, nous sommes entourés de Aélia et Jasmine pour débuter cette émission. Nous faisons notre fameux tour de table afin que tout le monde se présente, nom, prénom, âge, comment vous allez aujourd'hui réellement et votre un rapport en quelques mots à la dépression.
Je m'appelle Jasmine, j'ai 18 ans et là aujourd'hui ça va plutôt pas mal. Et puis mon rapport à la dépression, on va dire que ça fait un moment qu'elle me suit, donc c'est devenu un petit peu... Ça fait partie de ma vie, quoi.
Du coup, bonjour, moi c'est Aélia, j'ai 20 ans. Aujourd'hui, ça va, je suis fatiguée. Concernant la dépression, je sais pas comment expliquer. C'est quelque chose qui me suit depuis assez longtemps maintenant, donc c'est vrai que je fais plus trop attention.
Bonsoir, c'est Sarah. Toujours 18 ans, ça ne changera plus jamais, je pense. Je vais être assez en retrait dans cet épisode, dans le sens où moi, j'ai jamais connu de problème de dépression. Ça s'arrête à de la déprime, mais voilà. Donc, c'est vrai que vous m'entendrez pas beaucoup. Vous m'entendrez plutôt dans le prochain épisode, voilà.
Et moi, Anaëlle, 21 ans. Aujourd'hui, ça va plutôt bien. Certes, un peu de fatigue, mais ça va, on est bien. Mon rapport à la dépression, moi aussi, ça me suit un petit peu, mais je pense un peu moins avec le temps.
On voulait savoir tout d'abord comment la dépression s'est installée dans votre vie, s'il y avait un élément déclencheur et du coup ses premières conséquences.
Alors moi, ça date probablement de mon enfance, on n'est pas certain. Donc l'élément déclencheur, un peu l'élément classique, mon père est parti, ce genre de choses, vraiment, voilà. Mais après, j'ai toujours été une enfant très calme, donc on ne sait pas exactement quand ça a commencé à se manifester. Et on s'est rendu compte de ça un petit peu plus tard, vers le moment où j'entrais en CE2, à peu près CE2, CM1, où là on s'est dit, la gamine elle parle pas beaucoup quand même, il y a un truc qui cloche. Au final, c'est vrai que moi j'ai pas beaucoup de souvenirs de moi sans cette dépression, entre guillemets. Et puis en même temps, j'ai pas non plus l'impression d'avoir vécu un traumatisme particulier, puisqu'on m'a dit, voilà, ton père il est parti, mais moi je l'ai jamais vécu mal dans... Du moins, consciemment, j'ai jamais mal vécu. Donc en soi, c'est vraiment le seul truc que je pourrais dire par rapport à mes premiers contacts, entre guillemets, avec la dépression.
Et quand tu dis « on », c'est qui exactement?
C'est la famille, c'est les amis, c'est les psys, c'est toutes ces personnes-là qui sont, entre guillemets, extérieures et qui voient... Et qui ont des histoires qui leur sont racontées. Donc on leur a dit, le père est parti, tout ça. Et qui disent, ça c'est un traumatisme. Et après, moi, en moi-même, je ne l'ai pas nécessairement vécu comme ça, mais peut-être que c'est quand même une des causes.
Pour ma part, on ne sait pas réellement. Je suis en plein travail avec mes psys pour voir un peu comment c'est parti. Tout ce que je peux dire, c'est que ça fait plusieurs années maintenant. Pour sûr, on a estimé que ma dépression, elle a commencé en première. Pour peut-être, ça serait depuis le collège. C'est trop variable chez un enfant, la dépression, pour qu'on se date exactement quand est-ce que ça a commencé. Enfin, du moins pour ma part. Et l'élément vraiment déclencheur qui m'a fait prendre conscience de ce mal-être-là que j'avais en moi, je pense que c'est quand j'ai un camarade à moi qui faisait du théâtre, qui s'est pendu et qui est parti du coup en pleine année scolaire, avant le bac. Et je pense que du coup ça a déclenché quelque chose qui était déjà présent chez moi. C'était vraiment le fait d'un élément déclencheur, c'est pas du tout une cause. Mais ça m'a un peu, moi aussi, permis de me recentrer sur moi-même et de me demander pourquoi je souffrais de certaines peines, entre guillemets, mentales. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et je pense que c'est à ce moment-là que ça s'est vraiment déclenché en crise.
Pour ma part, du coup, ça s'est installé un peu avec, je pense, le rapport familial. Le fait que, des fois, comme je l'ai expliqué dans l'épisode sur les relations familiales, je ne me sentais pas trop à ma place. Et aussi, le rapport avec le père était assez compliqué. Vu qu'en soi, j'avais déjà déménagé et que du coup j'avais quitté en fait mon confort de vie, je pense que ça a dû avoir un impact aussi. Et moi, la dépression, ça s'est surtout déclenché au lycée, en première, si je ne me trompe pas, première terminale. Et c'est vraiment là où ça a été vraiment intense. Et en fait, je me suis rendu compte que je passais mon temps à être vraiment dans un malheur constant. Et en fait, il n'y avait plus rien qui pouvait réellement me sortir de ça. Et les conséquences que ça a eu, c'est surtout le refermement sur soi, mais ça, on en parlera plus tard dans l'émission. Mais je pense que c'est surtout ça qui ont été les éléments, le tout en fait, d'un coup sur une seule personne qui sont assez difficiles. Et donc là, on a parlé des conséquences, de l'élément déclencheur, mais à quel moment il y a eu une prise de conscience par rapport à la dépression, enfin, comment cette prise de conscience s'est faite de votre côté et par qui? Est-ce que vous avez eu de l'aide aussi de vos proches, de quelqu'un?
Alors personnellement, je ne m'étais vraiment pas rendu compte que j'étais en dépression. Je me voilais la face, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Je me disais, non, mais ça va, je suis un petit peu déprimée. Et puis j'ai fini à l'hôpital et là on m'a dit, bon Jasmine, c'est bon quoi, tu vas pas bien quoi. Et là le on en question, c'est mes amis, ma mère aussi, mes professeurs, qui m'ont dit, mais nous on est là si t'as besoin, et arrête de te voiler la face en te disant que ça va, alors que ça va clairement pas. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à me rassurer sur le fait que c'est pas normal, mais ça arrive, et que j'étais pas une folle dingue, qui allait pas bien pour aucune raison, et que c'était pathologique.
Le on que toi tu dis qui t'a aidé justement à te rendre compte que t'étais en dépression et que eux ne se voilaient pas la face, entre guillemets, contrairement à toi. Moi, c'était totalement l'inverse, entre guillemets. Dans le sens où je savais que j'allais pas bien, j'aurais pas été me mettre un diagnostic sur le dos sans consultation préalable avec un psychologue. Mais je savais que j'allais pas bien. Ça a été vraiment genre une dégénérescence de tout. Je pourrais même pas expliquer comment je me sentais à ce moment-là, mais je me sentais vraiment pas bien en fait. C'était vraiment en pleine phase descendante constamment, j'ai l'impression que jamais ça s'arrêterait. Et moi en fait, à ce moment-là, mes potes m'ont voilé la face en fait. Ils m'ont dit, mais non, tu vas bien, regarde, tu fais ça, c'est que ça va. Jusqu'à ce que me dire des choses très blessantes, comme quoi je sombrais et que je me noyais. Voilà, je les ai encore en tête, ces paroles. C'est très très, très compliqué parce qu'en fait, c'est encore très récent, dans le sens où ces choses-là sont passées il y a 6 mois.
Ah oui.
Et encore aujourd'hui, c'est compliqué avec eux, quoi, parce que moi, je suis pas sortie de ma dépression en 6 mois. Et eux, ils sont pas sortis de leur idée que j'étais pas si mal que ça en 6 mois. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est à ce moment-là que j'ai eu cette prise de conscience, que j'ai été voir mon médecin et que d'un mal de gorge, on est passé des antidépresseurs et des anxiolytiques. Et là, je me suis dit, ah oui, pas la même chose. Et du coup, voilà, mais c'est vrai que moi, mes potes ont eu un peu l'effet inverse. Ma mère, pas du tout, et mes potes très très proches ont été très compréhensifs. Mais voilà, j'ai eu ce groupe d'amis qui m'a... J'ai eu l'impression de laisser tomber, quoi. C'était pas très agréable.
Moi, de mon côté, la prise de conscience, c'est plutôt faite de mes parents et un peu de mes amis. Parce que du coup, j'ai toujours été assez renfermée sur moi-même. Genre, j'ai du mal à exprimer, c'est-à-dire les grosses émotions comme la colère ou la tristesse, des trucs comme ça. Je pense que du coup, ma mère s'en est rendue compte que... En fait, j'étais encore plus renfermée qu'avant et que vraiment, je limitais au maximum les contacts qu'on pouvait avoir, les repas, les trucs comme ça. Et en fait, ça devenait quotidien, en fait, des moments où t'es là, tu vas bien et d'un coup, tu te mets à chialer. Et enfin, en fait, il faut expliquer pourquoi tu pleures et toi-même, tu sais pas vraiment pourquoi tu pleures. Et je pense que c'est un peu de son côté, qu'il y a une prise de conscience. Et finalement, on est allé voir un médecin et c'est là, en fait, où j'étais seule avec le médecin et j'ai parlé avec elle et elle m'a dit, mais est-ce que ça va? Comment tu te sens et tout? Et en fait, elle me posait des questions simples, mais même le fait de répondre, c'était déjà un stress, une angoisse, une pression. Et en fait, quand ma mère, elle est revenue dans la salle, elle lui a dit, mais votre fille, elle va pas bien, genre, elle est en dépression, c'est pas normal qu'elle soit comme ça. Et du coup, finalement, c'est comme ça, en fait, que le déclic s'est eu, on va dire ça comme ça, qu'il y a une prise de conscience et qu'en fait, j'ai pu comprendre, en fait, pourquoi tout se passait de ce sens-là.
Je rebondis juste parce que, bon, moi, j'ai jamais été diagnostiquée ni rien, mais quand j'étais en quatrième, j'ai eu une phase où j'étais pas bien du tout. Et je pensais aux mots blessants qu'on t'a dit. Et moi, je me rappelle de ma mère qui me dit, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'allais vraiment pas bien du tout et que j'écrivais beaucoup dans un carnet, etc. Et que, quelqu'un de ma classe l'a trouvé, l'a donné à un directeur, machin. C'est une angoisse, vraiment, cette situation est une angoisse. Et je me rappelle d'un mercredi midi où je suis avec mes parents à table et le téléphone il sonne, c'est moi qui vais décrocher. C'est mon directeur, je sais pourquoi il appelle, mes parents ne savent pas pourquoi il appelle, mon père va décrocher, il a l'info que je ne vais pas bien, il revient à table, il n'en parle pas, donc mon père sait, je sais, ma mère ne sait pas. L'après-midi se passe, ce souvenir est assez horrible, l'après-midi se passe, le soir, discussion, et ma mère elle me dit, ouais, on est là pour t'acheter des fringues, etc., mais pour nous parler, t'es pas là. Cette phrase... Tout. Et franchement,
tu vois, 14 ans de
en vrai, non, parce que genre, je sais que mais c'est compliqué. Enfin, comment j'aurais réagi à leur place aussi? Tu vois, ton enfant, t'as l'impression qu'il va bien et il va pas bien. C'est étrange, mais tu vois, genre, ça m'y a fait penser, cette phrase. Mais je l'ai encore en tête et je lui en voudrais jamais. Mais c'était.
Ouais. Que tu peux acheter en fait avec de la confiance. Ouais, c'est vraiment pas.
Exactement. Et je sais pas, ça m'a fait penser à ça parce que cette phrase reste un peu là, tu vois. Normal.
Je pense que nos parents, ils ont pas forcément eu le. Enfin, nous, notre génération, comme on l'explique souvent dans l'émission, elle est un peu libératrice d'un mouvement, que ce soit sur du coup, la santé mentale principalement, avec d'autres points de vue aussi. Et je pense qu'en fait, nos parents n'ont pas eu ce truc-là. Quand quelqu'un ne va pas bien pour eux, bah, c'est une phase. Et en fait, genre, c'est qu'il y a eu un élément déclencheur, genre, je sais pas, un décès ou quelque chose comme ça. Mais en fait, ça va se régler avec le temps.
Et oui, on en parle très peu.
Je sais que moi, mon père, il en parle très peu, genre, des problèmes qu'il peut avoir, du stress même au travail, de la vie en général. Et c'est pour ça que je suis assez renfermée sur beaucoup de choses. Et pareil, moi, c'est pas aussi violent les phrases que vos parents vous sont dites. Mais moi, mon père, il m'a toujours dit, on lave pas son linge sale en public. Les problèmes que t'as, genre, dans la famille, ça reste dans la famille. Genre, tu t'en parles pas. Ça veut dire que, genre, t'as un problème, t'en parles avec eux. Pour lui, ça ne sert à rien d'aller voir un psy. Parce qu'en fait, c'est de l'argent que tu fous en l'air. Et genre, même quand je sortais de mes séances, il me disait, ça va? Mais genre, tu sais qu'en fait, il s'en fout un peu, genre...
C'est
pas contre lui, mais genre, c'est un ça va automatique, parce que tu sors d'une séance chez le psy, qu'il a payé genre 60 balles, quoi. Donc genre, c'est juste pour se dire, bon, ça va, j'ai mis 60 euros.
T'as le droit d'aller mieux avec 60 balles, quoi.
Ouais.
Ouais.
Mais okay. c'est pas contre lui, genre, pour dire ça, mais c'est juste que tout le monde n'est pas fait de la même façon, et je pense que c'est bien qu'on soit cette génération qui comprenne qu'en fait... Il y a un mal-être quelque part. En fait, ce mal-là, faut le régler avec de l'écoute et avec des professionnels. Professionnels ou non, on peut très bien essayer de régler le problème avec des proches ou des trucs comme ça, mais quand on voit que c'est trop violent, trop précis, on va dire ça comme ça, faut prendre les devants et essayer de mettre des mots sur ce qu'on ressent.
Après, tu vois, moi, j'ai jamais voulu aller voir un psy, par choix. Enfin, genre, je sais pas. Je n'ai jamais voulu, je suis pas contre en soi la profession et je pense que c'est fait pour certaines personnes, mais je sais pas, j'ai toujours dit non, je règle mes problèmes toute seule, même quand ça ne va vraiment pas, tu vois. Et c'est peut-être une très mauvaise idée d'ailleurs. Mais j'avais un peu comme toi, tu vois, des parents où, c'était pas... Ma mère, elle m'a toujours dit, si t'as besoin d'aller voir un psy, va le voir, mais mon père, il a toujours dit un peu... Ouais, le psy, c'est un peu un truc de gens qui vont pas bien, qui arrivent pas à régler leurs problèmes tout seuls, tu vois. Ouais. Donc après, t'as pas forcément envie d'aller voir le psy non plus.
Du coup, on a un peu rebondi sur la prochaine question qui était avez-vous discuté de votre mal-être avec un proche ou un professionnel?
Professionnel, oui. Avec mes proches, j'en parle vraiment pas. Depuis qu'ils ont compris, depuis qu'ils m'ont envoyé chez les psys, les psychiatres, machin, je leur dis rien du tout. Vraiment, c'est quelque chose de quoi j'aime pas parler. Je sais qu'il y a le secret professionnel quand je vais chez le psy, donc eux, ils savent. Mais vraiment, ma mère, elle sait pas grand-chose. Mon père, n'en parlons pas. Le seul truc chiant avec en parler avec des professionnels, plus qu'en parler avec des proches, c'est quand tu changes de professionnel.
Il faut tout réexpliquer.
Exact. Il faut toujours reprendre depuis zéro. Et puis, il se passe des trucs entre-temps. Donc, c'est comme...
Et eux découvrent même d'autres trucs derrière ce que tu as dit que l'autre n'avait pas découvert.
Exact.
Et puis, c'est sujet à interprétation. Donc, eux, ils sortent interpréter et toi, t'es là.
Ah, en fait, ils interprètent ta propre vie, quoi. Ils disent des choses sur toi-même. T'es là, attends, oh là 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 là, quoi. Après, des fois, c'est bien, ça te fait en apprendre plus. Mais des fois, on te balance des trucs dans la gueule. Là,
T'en avais pas besoin. T'étais là.
Non, c'était dans le déni aussi.
Ouais, aussi. Pour certains trucs,
je pense que moi, j'ai été dans le déni sur certaines choses et qui ont causé aussi, qui étaient l'une des causes de ma dépression. Mais
Je pense que c'est le déni, surtout quand, bah, même avec le changement de professionnel, ou même si on gardait le même, hein, y a beaucoup de choses qu'on, bah, comme on l'a dit, on se voile la face et on ne veut pas l'avouer.
Moi, pour ma part, j'aime pas parler au psy. J'y vais parce que j'ai besoin de mes médicaments et que j'ai une ordonnance pour aller voir et le psychiatre et le psychologue. Du coup, j'y vais parce que c'est remboursé. Mais honnêtement, si j'y suis pas allée avant, c'est que c'était pas remboursé.
Ouais.
Et que c'était clairement c'est hors de mes moyens, en fait. Parce que, disons, à 60 balles la séance, si tu vas pas trop mal, t'es à 2 séances par mois. Et voilà, si tu vas mal, c'est une par semaine, voire deux par semaine. Ça monte vite à 60 balles tous les deux jours. C'est non. Par contre, ma mère est beaucoup au courant parce qu'elle est essentielle pour les étudiants. Du coup, ce qui fait qu'elle a pas mal de contacts et que j'ai eu des rendez-vous, entre guillemets, assez rapides. En fait, j'aime pas en parler. Juste, j'aime pas parler de ce qui va mal, quand je sais ou quand je sais pas, d'ailleurs. Je trouve que c'est trop intime pour que les gens le sachent. D'ailleurs, quand je me retrouve au plus mal, je me retrouve toujours avec... j'ai envie de parler à quelqu'un, mais je sais pas à qui parler. Parce que j'ai l'impression de déranger tout le monde. Ça, c'est aussi lié à l'état dépressif. Mais ouais, c'est vrai que même parler à un psy, je trouve ça très très compliqué. Parce que c'est vraiment... Tu donnes les clés pour qu'on te fasse du mal, quoi. Que moi, j'ai cette habitude de... Même si les 8 milliards d'humains sur Terre le savent, ça me fera pas de mal.
Ouais.
Parce que je m'en suis armée contre. Quand je vais voir un psy, bah, je suis obligée de dire ce que j'ai sur le cœur et ce que... Enfin, je suis obligée. C'est du moins conseillé. Oui. De ce que je ressens vraiment, même si je comprends pas trop. D'essayer de poser des mots dessus. Et c'est franchement pas agréable de donner tes armes à quelqu'un pour qu'on puisse te tirer dessus avec. Mmh. C'est vrai que j'aime pas trop y aller, mais on y va.
Moi, j'en ai discuté. Bah, du coup, j'en avais discuté avec ma mère. Enfin, elle m'a un peu obligée. Et j'ai vu, du coup, deux psys. En fait, c'est vrai que j'ai aussi du mal à discuter de ces choses-là. Que ce soit bah, les choses qui vont mal principalement, mais que ce soit avec un psy ou que ce soit avec les gens en général, c'est que des fois quand il y a des conflits dans ma relation ou même avec des proches, j'ai du mal à mettre des mots. Je sais ce que je veux dire, c'est-à-dire que si je l'écris, je peux le dire, enfin, genre, ce sera bon pour moi, mais le faire sortir de ma bouche, j'ai du mal parce que du coup les mots deviennent réels et ce que je veux dire va être interprété pas forcément de la même façon et je vais avoir du mal à le faire ressentir comme moi je le ressens. Enfin, du coup, je me laisse un peu porter par la séance, on va dire. Je laisse la psy parler et me poser des questions. En fait, moi, je préfère répondre et finalement, j'ai découvert un truc. Enfin, découvert. J'ai une plus grande facilité à parler si je fais autre chose en même temps. C'est-à-dire qu'à un moment, elle m'a demandé de faire, je sais pas, un schéma ou un truc comme ça. Et du coup, je lui fais un schéma et après, elle me parlait d'autre chose. Et du coup, moi, je continue à dessiner et je lui parlais parce que j'avais pas son regard sur ce que je disais. Et au final, genre, les séances suivantes, à chaque fois, elle me donnait une feuille et elle savait que genre, c'était la solution pour en fait qu'il y ait des choses qui soient dites et exprimer un peu ce que j'avais à dire. Et je rebondis un peu sur ce que tu avais dit aussi à Elia, parce que du coup, moi, j'avais vu aussi récemment le psy de la fac. Il m'a parlé des chèques psy.
Même juste sur internet, on va sur mon psy, je sais plus quoi. Bref, c'est une adresse du gouvernement. Et t'as tous les psys répertoriés, donc 4-1 et 4-2, qui sont remboursables autour de chez toi. Du coup, c'est vachement pratique. Mais c'est tous ceux qui sont éligibles au chèque psy, en fait.
Ouais.
C'est... Bah, justement, du coup, j'en profite pour rebondir. On voulait faire la transition de cette émission avec un morceau musical de Stromae, Si Seul, qui a beaucoup fait parler de lui. Donc, on va vous le faire écouter.
Non.
Non.
L'extrait.
C'est pas Si Seul.
C'est L'Enfer.
Pardon. C'est non, excusez-moi. L'Enfer de Stromae. Donc, on va vous faire écouter un morceau et puis après, on pourra rebondir là-dessus, notamment sur le suicide, etc. Et puis partager une potentielle expérience.
Let's go, bonne ambiance.
Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires. J'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui nous font vivre un enfer.
Donc je voulais savoir si vous souhaitiez rebondir par rapport à une expérience personnelle. Comment concrètement, dans votre quotidien, la dépression elle s'est installée? À quoi ça ressemblait vos journées? Et si vous en êtes potentiellement arrivé à, malheureusement, à ce type de pensée?
En fait, mes journées, quand je suis vraiment au profond de ma dépression, on va dire, je ne me souviens pas, je ne sais pas ce que je fais. Donc le seul truc que je sais, c'est que les gens me disent, t'es dans ton lit, tu fais rien, tu sors pas, tu manges pas, tu te laves pas, tu pues. Et c'est un petit peu une catastrophe. Et en général, ce qui se passe, c'est que, on va dire ça va arriver pendant un petit moment. Et puis d'un coup, je vais être, tout va bien, la belle vie. Ouais. Et puis deux jours après, je suis à l'hôpital. Elle a fait une tentative de suicide, une autre. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et en fait, le pire, c'est que en général, j'ai même pas nécessairement envie de mourir. J'ai envie de dormir. Okay. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Je suis là, je suis en mode, vas-y, je veux dormir, je veux pas me réveiller. Bon, évidemment, ça veut dire mourir, mais...
Mais c'est pas pareil. En fait, t'as pas dans l'idée de mourir.
C'est une faire une longue pause.
Tu veux genre revenir mieux. Là, c'est trop dur de rester. Ouais, donc tu te dis, je vais revenir un peu plus tard, voilà. Mieux, puis ça y est, voilà.
Enfin, un grand repos, et puis je reviendrai, je serai en forme. Sauf que, c'est pas comme ça que ça se passe.
Que ça ne marche non plus.
Et non, vraiment pas. Et du coup, au départ, j'en ai fait quand même quelques-unes des TS. Et au départ, ça allait, entre guillemets. Je suis restée à l'hôpital une semaine, deux semaines. Et la dernière que j'ai faite, on m'a dit, bon, c'est bon, là. Ça suffit. Et ils m'ont mis en hôpital de jour. Et donc, t'as une obligation de présence pendant la première semaine. Après, tu vas un petit peu moins. Et en général, tu restes un mois et demi. Et là-bas, il y a des infirmiers, psychiatres, des psys...
Moi, j'ai jamais été jusqu'à l'hôpital. J'ai fait des TS qui ne m'ont jamais été si graves que j'ai dû me retrouver à l'hôpital parce que hashtag je le cache. Non, il y a une fois où c'était vraiment grave et que j'ai dû aller me faire recoudre. À ce moment-là, j'étais pas du tout prête. Que ce soit à avouer que j'étais dans une telle détresse que je me disais que me faire du mal physiquement ne pouvait que me faire du bien mentalement. Ça, c'est pareil. C'est un théorème qui ne marche pas. En pratique, ça marche sur le moment. T'as mal à l'extérieur et tu te dis « Ah, mais je sais pourquoi j'ai mal. » Une minute après, c'est fini. Ouais. C'est vraiment du court terme, très nocif. Je sais que moi, j'ai pas le cran, entre guillemets, de mourir. Jamais j'irai pendre une corde et vraiment mettre mon coude dans un nœud coulissant. C'est vraiment pas possible pour moi d'imaginer cette mort-là. Par contre, me dire que je me réveillerai pas parce que j'ai pris trop de médicaments ou que malencontreusement, je me suis évanouie parce que je me suis ouvert les veines, je me dis « C'est pas très... » Enfin, c'est pas... pas vraiment une mort, ouais, en fait. C'est une mort douce, et puis c'est... Bon, c'est typique féminin, mais...
Ça fait un peu accident.
Plus qu'accident, ça fait vraiment juste détresse, quoi. Ouais. Ouais. C'est juste que j'en peux plus, et j'ai juste envie de me reposer, c'est plus dans ce sens-là. Mais je sais que je serais jamais capable de me mettre une balle dans la tête. Une mort rapide, c'est pas forcément... Je veux dire, ce que je cherche, mais pas du tout.
Non, mais c'est, ça dépend de chaque personne. Oui.
On va faire un sondage, bon.
Qui mort douce, qui mort instantanée, là. Non, vraiment pas du tout... Aujourd'hui, niveau TS, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que dans une journée où tu vas vraiment pas bien, étant excédée par les médicaments, je me suis mis à fumer. Ce qui n'est vraiment pas recommandé avec des médicaments qui agissent sur ton cerveau. Ce qui fait que j'ai des trous de mémoire constants. Là, ça va mieux. Ouh, on remonte la pente. Mais rien que les médicaments, avant que je commence à fumer avec... ça me crée des trous de mémoire, une perception du temps complètement déformée. Le temps ne passe pas du tout comme il peut passer. Une journée, ça va me paraître une heure, et deux jours, ça va me paraître un mois, quoi. Et c'est horrible parce qu'il y a des trucs que j'ai fait hier et j'ai l'impression de les avoir fait la semaine dernière. La temporalité, c'était hier soir, 23h, quoi. Et si tu me demandes, pour moi, ça fait déjà deux ou trois jours. Okay. Et en vrai, c'est horrible d'avoir une perception aussi déformée de la temporalité. Parce qu'il fait que, même si t'as toute la volonté que tu veux, il y a des trucs que tu fais pas parce que juste, tu sais pas. Tu sais pas quel jour t'es ou quel moment tu dois le faire. Et en fait, moi, ça m'a changé totalement les médicaments, ma vision de l'espace et la temporalité. L'espace, ça va parce que c'est quelque chose qu'on côtoie au maximum. Mais le temps, c'est très dur de faire trouver à son corps une horloge interne, que ce soit au niveau des rythmes de sommeil ou pas. Et en fait, du coup, ça m'a tout déréglé, ce qui fait que quand j'ai un rendez-vous le lundi, on arrive le lundi soir et je me dis « Ah, j'avais un rendez-vous aujourd'hui !» Mais je me rends compte le soir quand je repasse ma journée en tête. Donc c'est vrai que c'est très très handicapant. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas, comme la douche ou des trucs comme ça. Maintenant, ça se dit un peu plus, mais en fait, les personnes en dépression, elles sont sales. Mais c'est pas de leur faute, hein. Je me mets dans le même panier. Parfois, prendre une douche pendant une semaine, deux semaines, t'es là, je peux pas aller sous ma douche. C'est pas que j'ai pas envie de prendre une douche, ça a l'air appétissant la douche. Mais tu peux pas, en fait. Juste le fait d'initier quelque chose, c'est déjà trop épuisant.
Et puis des fois, vraiment, prendre une douche, c'est quelque chose, tu te dis, ok, je vais prendre une douche, mais ça va te prendre la journée, tu fais rien d'autre.
En fait, t'as l'impression que c'est une activité surhumaine.
Exact.
Tu fais 12 travaux d'Hercule, mais en une seule douche.
C'est vraiment ça. Tu te dis, ok, je vais le faire, mais dans ce cas-là, tu fais rien d'autre de la journée.
Ou alors, tu te mets une date butoir. Tu te dis, là, j'ai besoin de sortir. Là, je dois aller faire les courses. C'est nécessaire. Donc, je dois prendre une douche parce que tu pues à 10 km. C'est horrible. C'est pas l'odeur d'une personne en dépression, c'est pas drôle. L'hygiène de vie, l'hygiène dentaire, c'est vraiment pas drôle. Hein. C'est pas...
La dépression n'est globalement pas drôle.
Oui, non. Il y a des gens qui le romantisent vachement. Oui, hein, le fait d'être en dépression, de « je fais rien de mes journées, waouh ». trop
non,
tard.
C'est pas
faut parler de la réalité de la situation.
Tu restes pas juste dans le noir et tu fais rien de tes journées, t'essayes tout. Hein. Tu commences à prendre des médicaments, tu savais même pas ils existaient, tu les découvres aussi pour la première fois.
Ils ont des noms à rallonge.
Mais ouais, tu fais plein de découvertes sur les effets secondaires des médicaments et de à partir de quel moment c'est euphorique. Et de voilà, il y a plein de choses que tu commences et que tu finis de faire quand t'es en dépression. C'est pas juste je m'assieds dans le noir et je pleure trois fois dans la journée.
Bah, je pense que ça dépend de chaque personne, comme tu l'as dit, genre l'hygiène, enfin comme vous l'avez dit, c'est l'hygiène et tout. Je pense que j'ai dû être dans une espèce de déni global un peu, où je savais que j'allais pas bien. Mais en fait, moi, c'était des phases, on va dire, même si j'avais ce truc de bah, j'ai la flemme de tout faire, la pression que j'avais et le mal-être que j'avais, c'était aussi genre mes relations amicales qui n'allaient pas, vu que mon ancienne meilleure amie s'est retrouvée dans la même classe, mais avec des gens que je n'aimais pas et qu'elle savait que je n'aimais pas. Et du coup, elle traînait avec ces gens-là qui me critiquaient avec elle. Elle revenait vers moi pour me dire « Oh, il y a machin qui a dit machin, machin. » Et je lui dis « Mais tu trouves pas que genre, ce qu'ils ont dit, c'est méchant sur moi ?»« Ah non, mais t'inquiète, j'essaie de te défendre. Hein. »
Le monde merveilleux ouais. des filles.
Merci.
Tous les trucs qu'elle pouvait dire ou qu'elle pouvait faire, c'était extrêmement genre méchant. Et je sais pas si c'était intentionnel ou si elle le savait pas, mais il y avait des actions qu'elle faisait. Et en fait, tu te rends compte que bah, t'es un peu une sous-merde. Genre, elle est là et... Bah, elle commence à exposer ta vie devant des gens et à faire un sondage. Enfin, d'où les gens, ils ont besoin de faire un sondage pour savoir, genre, imaginons, ouais, est-ce que vous pensez qu'elle est lesbienne? Est-ce que vous pensez qu'elle est bi? Est-ce que vous pensez que machin?
C'est mais surtout, qu'est-ce que les autres ont à foutre?
Sondage.
Elle a fait ce sondage-là devant moi avec, genre, nos potes. Et genre, elles ont fait, ouais, levez la main les gens qui pensent ça. Et il y a des gens qui levaient la main. Et genre, je fais, mais...
Ils ont rien d'autre à faire. Gueule,
genre, vraiment, genre, tu dis rien sur le coup, mais... Je pense que c'est.
Je pense sur le coup, tu peux rien dire.
Sur le coup, tu dis rien. Genre...
Tu veux dire quoi?
Je veux participer.
mais genre, c'est grave gênant. Et j'ai été contente que le Covid arrive et qu'il y ait eu le confinement. Parce qu'en fait, j'ai pu me retrouver toute seule. Et certes, je faisais pas grand chose, mais du coup, je voyais plus ces gens-là. Ça m'a aidé aussi. Pour revenir un peu à la question, comment ça se reflétait dans ma vie au quotidien. Bah, en fait, comme je dis, c'était des phases. Genre, en fait, moi. Je suis pas pleurée, mais d'un coup, je sais pas, genre, je mangeais une pomme et genre, elle est pourrie, vas-y, je vais chialer parce que il y a deux jours, bah, il s'est passé ça. Du coup, je vais pleurer pour des trucs qui ne sont pas sur ce qui se passe d'un coup. Et le problème, c'est que ça m'arrive encore aujourd'hui de pleurer, mais pas pour ce qui se passe actuellement, pour l'événement qui se passait. Mais après coup, parce que bah, je garde tellement tout en moi qu'en fait, à un moment, le vase, il déborde. Et en fait, t'es obligé de chialer pour des trucs qui se sont passés il y a un mois. J'ai eu ce truc aussi... pour rebondir sur la chanson, j'ai pas fait de TS parce que je veux pas être un fardeau pour les gens, même encore aujourd'hui, de me dire je suis morte et tout. Et en fait, du coup, là, il y a des gens qui vont devoir organiser mon enterrement, qui vont devoir faire des papiers, qui vont devoir faire ça. Et en fait, tu te rends compte que ben, t'as pas une mort, on va dire, paisible.
Mais c'est pas libératoire du tout.
C'est pas libératoire.
Ça contraint grave les autres.
Parce que du coup, t'infliges genre ta mort à d'autres gens. Le truc, c'est que je sais que j'aurai jamais le courage de le faire parce que j'ai pas envie d'être la personne que tu connais qui a raté son suicide.
Je connais quelqu'un qui a raté son suicide. Aujourd'hui, on s'en moque, mais d'ailleurs, je pense que vous le connaissez parce qu'il travaille dans un bar. Mais évidemment, je tairai son nom. Merci. Qui a loupé une tentative de suicide, c'est-à-dire que ses parents l'ont vu rentrer par la porte, sauf qu'ils habitaient au deuxième étage. Voilà, il a juste sauté par la fenêtre, il s'est raté, il s'est fait une entorse.
Oh non.
Ah oui, d'accord.
Et on peut en rigoler aujourd'hui. Nous avons son autorisation pour rigoler. Voilà, donc ses parents. Moi c'est très drôle quand il me l'a raconté de ses parents sont rentrés. Ils l'ont vu rentrer par la porte. Il m'était sorti par où. Il a dit non, mais laissez tomber. Ouais, bah oui, effectivement. Mais pour ce truc-là, les tentatives de suicide ratées, c'est drôle après coup.
Ouais,
sur le moment, c'est vraiment tout sauf drôle. Mais je pense que sur le moment, quand tu te sens vraiment trop mal, tu penses. Moi, en tout cas, c'est mon cas, je ne pense plus aux autres. Je suis rendue à un moment où je pense même plus à moi-même, tu vois. Je sais pas à quoi je pense.
Ouais, c'est une détresse irrationnelle.
Je pense plus à, par exemple, ma mère ou mes sœurs. Je pense plus à mes meilleurs potes. Je parle à plus personne. Il y a plus personne dans mon esprit. Je me dis, je suis seule entièrement et même si je le suis pas, je le suis quand même parce que personne n'arrive à comprendre ce que je vis. Tu vois. C'est très dramatique, tout le monde me déteste, personne ne m'aime, personne ne me comprendra jamais et tout le monde m'en veut. Tu vois, c'est très dans la globalité, mais c'est vrai que tu penses plus à personne, quoi. C'est quelque chose qui devient secondaire et encore, je sais pas combien de degrés, tu vois. Il y a plein de trucs que tu penses avant de penser à ta famille et ce qu'ils vont devoir faire comme papier administratif, tu vois. C'est vrai que sur le moment de détresse, tu n'y penses pas trop. Après coup, pourquoi pas, mais...
Pour finir, on vous a demandé d'amener un objet qui vous rappelait cette période, qui vous rappelle cette période.
Moi, j'ai ramené, c'est un livre cahier, c'est un devoir que j'ai dû faire quand j'étais au lycée, sur notre vie. Donc, c'est un livre autobiographique.
Je connais ce cahier, je sais qui elle a eu en français.
Non, mais. Ah, mais oui, Madame Delbecq.
Oui.
Ah, oui. Bah voilà. Okay. Bah, du coup, j'ai amené ça parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le passé. Et, j'avais un petit mot de la part de la prof qui m'avait dit que c'était très beau et que je ferais une excellente enseignante. Et que je me rendrais compte que ces souffrances seront ma force. Et j'ai trouvé ça tellement beau comme note de devoir.
D'un prof en plus.
D'un prof.
C'est une relation spéciale.
Du coup, ouais, ça, c'est. Des fois, je le regarde et j'avais écrit aussi à la fin. Une petite lettre du futur que je ne vais pas lire, bien évidemment.
Bien sûr.
Mais ouais, le principe d'avoir dû faire ça et d'avoir dû être en rétrospective par rapport à ce que j'avais pu vivre et ce que je vivais, et d'avoir un avis totalement différent de celui simplement de mes parents ou de mes professionnels de santé, ça m'a beaucoup aidée à avancer, à me dire, voilà, bah, ces souffrances seront ma force. Mmh. Et puis je peux aller plus loin et je peux grandir avec ça.
Moi, j'ai pris mes AirPods. Honnêtement, je ne savais pas quoi prendre 5 minutes avant de venir ici, d'accord. J'étais là, je prends ma guitare, je ne prends pas ma guitare, je ne fais plus de guitare depuis des années, vraiment, j'étais en panique. Alors, AirPods ou tout autre écouteur. Mais ça ne symbolise pas que la musique, j'en écoute beaucoup, j'en ai toujours beaucoup écouté. Bon, maintenant, je mets mes écouteurs même chez moi, ça c'est un peu stressant, mais voilà, j'ai toujours écouté beaucoup de musique, mais juste, il y a eu tout un monde dans lequel je me suis retrouvée quand je me sentais pas bien, que ça part du confinement, soit avec tout ce qui a été communauté en ligne, etc. Un peu l'explosion du Twitch français. Et genre, ça m'a vraiment permis de faire quelque chose de mes journées, de me dire que je suis pas dans une inactivité totale tout le temps. Déjà, tu t'ennuies, donc c'est compliqué à vivre. Et en plus de ça, quand tu t'en rends compte, je trouve ça encore plus compliqué parce que tu veux faire des choses et juste tu retrouves que t'en es incapable. Donc tu repars à zéro en disant que t'es incapable de rien faire, etc. Je suis devenue modo Twitch, voilà.
Ouais.
Et d'un tout petit collectif qui font des choses très très quali d'ailleurs, donc là tiré du bas tiré du 8 Rinx sur Twitch, c'est très cool, ils font des podcasts aussi. Du coup, bref, je suis devenue modo et ça m'a permis aussi de me mettre à fond dans quelque chose qui était pas du tout obligatoire en fait.
Ouais.
C'est moi qui l'ai choisi, j'ai choisi de devenir modo, j'ai choisi de bah, du coup de faire de la modération. Ah, c'est un tout petit truc, on a rien à faire, hein. C'est juste histoire de dire que je suis modo, hein. J'ai une autre interface et tout. Et même faire des trucs qui sont à ma propre initiative, en fait, ça m'a fait aussi reprendre confiance en ce que je peux faire. Et maintenant, j'ai moins de mal à me mettre sur mes cours. Mon premier semestre, j'étais incapable, en fait, de faire quoi que ce soit des travaux de groupe ou pas. Ouais. En fait, même suivre les cours, c'était trop compliqué, quoi. Et surtout que je suis arrivée en début d'année très, très remontée, plein d'énergie de l'été et tout, que j'ai tout épuisé en un mois. Et après, je me suis enfermée chez moi. Donc, c'est vrai que ça m'a un peu sauvée d'avoir mes écouteurs, de me retrouver dans mon monde. Et de même du jour au lendemain, quand je me retrouve sans personne, bah, j'ai toujours des personnes avec moi sur mon téléphone. Ou... C'est vrai que ça m'a un peu réconfortée dans ce sens-là.
Je n'avais pas non plus grand-chose à ramener. Mais je me suis dit, bon, on va parler du lycée. J'ai ramené mon t-shirt de sport du lycée.
T'avais un t-shirt de sport au lycée ?
Oui.
Ah, le lycée de riche. Je rigole.
Oui, oui.
Non, stylé en vrai. Par contre, il est dégueulasse. Par contre, je suis désolée, mais le orange et bleu.
Oh, c'est bon. La violence.
Ah non, mais orange et bleu, là, c'est quand même.
Mais c'est des couleurs complémentaires. C'est pas moi qui l'ai choisi. Mais bref, genre, je l'ai ramené parce que bah, ça représente quand même une étape de ma vie, positive comme négative. En fait, on est obligé de passer par là et c'est là où ça a été vraiment compliqué. Donc, je pense que c'est. Un bon souvenir, on va dire, de cette période-là. Voilà.
Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de On Papote, un sujet qui nous était particulièrement important d'aborder. Nous remercions également nos magnifiques invités Jasmine et Aélia qui ont gracieusement accepté de se livrer à nous.
Nous rappelons également qu'il existe un numéro d'urgence, le 3114, et le site internet SOS Amitié qui est accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Merci à vous de nous avoir écoutés et d'être toujours plus nombreux à nous écouter sur les plateformes.
Nous nous retrouverons dans 2 semaines pour aborder le thème du harcèlement scolaire, violence physique et morale, enfermement social. Voilà de quoi nous parlerons.
Envie de soutenir l'émission ou vous souhaitez participer, nous proposer des idées d'émissions, alors n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, @onpapote.podcast, pour voir les exclus de l'émission et remplir les formulaires de candidature. Bonne soirée à tous.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Merci.
On va s'arranger, c'est faux, je sais que tu sais. Des fois, je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin, sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur.